France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous, c'est un vrai bonheur de vous retrouver et de renouer avec notre rendez-vous du samedi matin grâce à la dextérité des équipes de notre radio. Il y a 2 mois tout juste, avant d'être confinés, nous nous interrogions sur la façon dont les différents systèmes de santé affrontaient la pandémie. Aujourd'hui, c'est une autre analyse qui s'impose. Tout au long de l'histoire, on a mesuré la puissance des États à leur capacité militaire. Plusieurs pays y consacrent des budgets colossaux et les industries d'armement sont considérées, comme en France, d'intérêt national. Parmi les multiples leçons que la Covid-19 nous inflige, la plus sidérante est celle-ci, au même titre que les capacités de recherche et de développement, les médicaments sont un enjeu stratégique et les pays occidentaux n'en ont pas la maîtrise. Mondialisation, interdépendance, diversification, délocalisation des chaînes de valeur, le Big Pharma, c'est-à-dire les quelques grands acteurs du monde de la pharmacie, qui parient des milliards d'euros sur le potentiel thérapeutique de quelques molécules, le Big Pharma obéit à une logique économique d'autant plus contraignante qu'il a besoin des marchés financiers. Une fois les brevets dans le domaine public et les prix bas privilégiés en Europe, ce sont les pays asiatiques, et d'abord l'Inde et la Chine, qui depuis des années accaparent l'essentiel de la fabrication et du commerce des médicaments génériques. La Chine, surtout, qui aujourd'hui entend démontrer la supériorité de son modèle en maîtrisant la pandémie et en gagnant la course aux vaccins. Une course qui, au-delà du potentiel sanitaire et commercial, tourne à une confrontation sans merci avec les États-Unis. Washington dénonce des tentatives de piratage. Sanofi déclenche la polémique à propos des priorités d'accès liées au financement. Un vaccin anti-Covid gratuit et accessible à tous, des industries pharmaceutiques relocalisées, s'agit-il de vœux pieux ou de tels scénarios sont-ils possibles? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Karine Milsan. Vous êtes économiste, chercheuse au CNRS, professeur associé à Paris Sciences Économiques. El Mouhoub Mouhoud, bonjour. Vous enseignez l'économie à l'Université Paris-Dauphine. Nathalie Coutinet, vous êtes chercheuse au Centre d'économie de l'Université de Paris-Nord. Christophe Jaffrelot, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au CERI, spécialiste en particulier de l'Inde et du monde indien. Et j'ai pu enregistrer hier un entretien avec Mohamed Younous, économiste bangladéchi, prix Nobel de la paix, inventeur du microcrédit. Nathalie Coutinet, on voit avec l'affaire Sanofi à quel point la course au vaccin est devenue extrêmement préoccupante pour tous les acteurs qui luttent contre la pandémie. On sait que le calendrier pour obtenir ce vaccin se situe au mieux entre 1 à 2 ans. Faites-nous une sorte d'état des lieux. Combien de projets sont-ils déjà en cours?
Alors aujourd'hui, on a une centaine de candidats vaccins, c'est-à-dire de recherches qui ont montré que certaines molécules seraient susceptibles d'être des vaccins. Et sur ces candidats vaccins, on va dire 70, entre 70 et 75, se sembleraient actifs. Et pour certains, les tests cliniques, c'est-à-dire des tests sur l'homme, ont déjà commencé pour 5 d'entre eux. Ces tests ont lieu aux États-Unis pour 2 d'entre eux et pour 1 d'entre eux en Chine. Voilà. Alors ces recherches, elles ont dans ce cas lieu dans une organisation tout à fait nouvelle, puisqu'on assiste à des partenariats, des sortes de consortiums qui se créent entre des académiques, des instituts de recherche académiques comme l'Institut Pasteur par exemple, des gros acteurs privés et puis des start-up, et avec une mutualisation d'une partie des travaux. Et puis on a aussi un financement qui est assez particulier, puisque dans le cas d'un vaccin sur ce type de pandémie, Les firmes privées ne souhaitent pas s'investir trop parce qu'elles prennent un risque énorme. C'est le risque que le vaccin arrive après la pandémie. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé dans le cas du STRAS, où des recherches avaient commencé, puis elles ont été stoppées par l'arrêt de la maladie. Donc, ce qui est particulier ici aussi dans ce cas, c'est qu'on a des financements publics ou caritatifs qui viennent financer ces différents consortiums de recherche. Par exemple, le gouvernement américain, la BARDA, par son bras armé du ministère de la Santé, finance un projet de recherche auprès de Sanofi et GSK. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Finance aussi le projet de recherche Moderna, qui est sans doute le projet le plus avancé. En tout cas, on imagine que c'est le plus avancé. Et puis, à côté de ça, on a un deuxième consortium autour de ce qu'on appelle la CEPI, qui est une coalition qui s'est fondée à Davos en 2017. Et cette coalition, elle est financée à la fois par des États, mais aussi par des financeurs philanthropiques tels que la Gates Foundation ou le Wellcome Trust. Donc on a une organisation tout à fait particulière qui donne naissance donc à cette centaine de candidats vaccins aujourd'hui testés. Je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est que ces recherches, elles sont faites avec différentes procédures, c'est-à-dire que toutes les recherches ne sont pas liées avec les mêmes protocoles de recherche, si vous voulez.
El Mouhoud, Nathalie a raison d'insister sur le fait que les choix technologiques peuvent être très différents, mais ce que l'affaire Sanofi, si on peut l'appeler ainsi, révèle, c'est au fond notre méconnaissance de la logique économique dans ce cas particulier. Donc Sanofi est considéré comme une entreprise française, c'est la quatrième capitalisation du CAC 40, et son patron britannique, Paul Hudson, a provoqué un certain émoi quand il a déclaré mercredi dernier que, bien évidemment, à partir du moment où l'agence américaine BARDA, à laquelle Nathalie faisait allusion, cofinance les premiers essais de vaccins Sanofi, eh bien, en quelque sorte, les Américains auraient droit aux premières distributions. El Mouhoud, quelle est votre analyse de cette affaire quand on crie maintenant à la mise en cause de notre souveraineté économique?
Alors, moi, je travaille sur les délocalisations et les relocalisations d'activités dans l'ensemble des secteurs. Et évidemment, je rencontre dans ma route de chercheur l'industrie pharmaceutique qui présente à la fois des spécificités et également des généralités par rapport à d'autres secteurs. En fait, ici, effectivement, on a affaire à une entreprise multinationale, que les financements, vous l'avez dit, dans la structure du capital, on a 60% d'investisseurs, 64% internationaux, étrangers, des fonds de pension. On a la plupart du chiffre d'affaires se fait hors d'Europe. Donc on a une entreprise multinationale qui fabrique des biens spécifiques qui ont un rapport avec la santé, donc les vaccins et les médicaments. Et sur les vaccins, on a une course à l'innovation qui est majeure. Comme ça a été expliqué précédemment, en fait, dans ce secteur, le mode de concurrence dominant entre les groupes, c'est la course à l'innovation. Et mettre sur le marché de nouveaux produits, que ce soit des médicaments ou des vaccins, c'est évidemment très coûteux en recherche et développement. Et donc la recherche et développement d'un côté et le marketing de l'autre sont les deux blocs de compétences des groupes pharmaceutiques, comme d'ailleurs dans d'autres secteurs très oligopolistiques comme l'informatique et même la chaussure de sport avec les Nike et les Adidas. Et puis au milieu, ben il n'y a pas grand-chose finalement à faire que d'essayer d'obtenir des profits par des délocalisations tous azimuts. Et ici, en fait, ce qui s'est passé avec le jeu de dupes, c'est que dans la mesure où la spécificité du secteur réside dans le fait que la demande est socialisée, mais aussi les prix sont plus ou moins régulés selon les pays, on a affaire à des stratégies évidemment de financement massif par les États-Unis et par l'agence BARDA en particulier, qui a rencontré fonds privés, fonds publics de manière extrêmement rapide, des précommandes qui assurent au groupe un certain nombre de situations de non non risqué par rapport à ce qui a été expliqué précédemment, au risque de se retrouver avec des invendus si la pandémie s'arrête. Là, les précommandes sont aussi dans le jeu. Et puis, troisième élément essentiel, c'est que les prix n'étant pas régulés aux États-Unis, eh bien, contrairement au cas français, où on a quand même des prix qui sont régulés, même si les groupes arrivent à se débrouiller, eh bien, ils vont pouvoir effectivement envoyer aussi des signaux tout à fait massifs et intéressants en termes de rentabilité future. Donc, en nous vend ici une promesse, et cette promesse ne peut s'expliquer que si effectivement on voit le jeu d'interaction entre les budgets de R&D massifs, le financement par la finance qui est à la fois qui autorise le financement de ce type d'activité extrêmement risquée, mais qui aussi demande dans sa contradiction et dans son impatience des rendements futurs assurés. Et donc moi je pense que l'annonce
Elmohoub, pardon, je vous interromps parce que si on s'en tient au cas de Sanofi, on voit quand même que 40% de la recherche et développement de Sanofi est en France, ce qui permet à Sanofi de bénéficier du crédit impôt recherche. Alors certes, ça représente quoi, ce 140, 150 millions d'euros, ce qui paraît par rapport au budget, je crois, de recherche d'un tel vaccin, qui s'évalue au moins à 1 milliard. D'euros, on voit bien que pour l'entreprise elle-même, ce sont des échelles différentes, mais on voit aussi que le patron de Sanofi a mis en cause la lenteur de l'Union européenne qui a pourtant récolté quelque 7,4 milliards d'euros début mai dans une sorte de téléthon pour ramasser des fonds. Et puis on a vu le président de la République, le Premier ministre, s'émouvoir, dire que le vaccin doit être hors des lois du marché. Est-ce que c'est réaliste? Comment concilier les principes vertueux et les réalités de tels investissements?
Oui, là, en fait, ça met aussi l'accent sur les annonces qui ont été faites sur la relocalisation de cette industrie, alors que les choses sont beaucoup plus compliquées. Dans les faits, en effet, la structure de financement américaine est beaucoup plus rapide et plus massive. Ça, c'est l'avantage des États-Unis en matière de financement des activités de recherche et développement risquées. Ici, en Europe, on a une fragmentation entre les États. Et effectivement, peut-être que la stratégie aussi, c'est de pousser les États à mutualiser davantage leurs ressources pour pouvoir faire front à ce type de financement colossaux. Comme vous l'avez dit, l'écart est énorme entre ce que les avantages que le groupe peut avoir en France par le crédit d'impôt, qui est d'ailleurs distribué à la tête de groupe et non pas aux filiales qui sont en France, hein, et de l'autre côté, les financements américains. Donc, en effet, se pose une question de savoir ce que l'on fait au niveau européen pour avoir des bases solides de financement. Mais évidemment, là, il faut sortir de l'absence d'intégration industrielle réelle en Europe qui fait défaut, puisqu'on a des politiques plutôt de concurrence qui empêchent, qui interdisent un certain nombre de comportements. Mais l'intégration de la recherche et développement au niveau européen, ça reste quand même relativement limité. Donc, de ce point de vue-là, il y a un jeu stratégique de la part du groupe Sanofi qui est d'essayer de mettre la faute du côté européen. Mais je pense que tout de même, la question de l'anticipation des profits futurs sur le marché américain, la question de l'absence de régulation des prix sur le marché américain et le fait que le chiffre d'affaires de Sanofi est majoritairement présent aux États-Unis, quand même, c'est pas rien, c'est de l'ordre de 35% du chiffre d'affaires du groupe. Tout ça plaide en faveur d'une explication plutôt rationnelle du point de vue du groupe Sanofi lui-même que du point de vue de son rapport aux institutions européennes.
On a pu découvrir dans le quotidien Le Monde avant-hier une lettre ouverte signée par quelque 150 personnalités, 3 chefs d'État africains en particulier, et tout cela fait partie d'un mouvement qui a été lancé par Mohamed Younous, prix Nobel de la paix, inventeur du microcrédit. Nous avons pu le joindre par téléphone à Dhaka hier et je lui ai demandé jusqu'à quel point le vaccin qui pose le problème à la fois de sa mise au point, de son accès et de son prix, à quel point le vaccin pouvait sortir des lois du marché comme on le demande maintenant en France et en Europe. Mohamed Younous.
Well, I have been advocating that Je me suis prononcé en faveur pour que les vaccins tels que le vaccin contre le coronavirus soient un bien commun, mondial. Donc il ne devrait y avoir aucune propriété, aucun brevet. Ce devrait être en open source, ce devrait être contrôlé par une agence comme l'OMS. Tout le monde pourrait le produire à travers le monde. Seuls des contrôles de qualité seraient conduits par l'OMS ou une autre agence qui serait désignée. En d'autres termes, ça ne doit pas être orienté profit à partir du moment où on fait rentrer les bénéfices, le commercial, là-dedans, ça devient quelque chose de complètement différent. On a besoin de 8 milliards de doses de vaccins. Ça ne doit pas être une petite quantité maintenue à un prix élevé pour une certaine élite et que le reste du monde soit abandonné. Non, ça doit être partagé par tout le monde. Personne ne devrait en être privé. Ça devrait être une initiative mondiale. Ça peut être transformé aussi de façon entrepreneuriale, mais ça doit être une entreprise sociale. L'argent qui serait investi et l'argent qui serait utilisé pour cela, pour en faire une initiative réussie, qui soit commercialisable, c'est-à-dire qui pourrait couvrir ses coûts. Et aucun bénéfice personnel ne devrait en être tiré. C'est donc une entreprise qui couvrirait ses coûts et l'argent créerait une sorte de fonds mondial de développement et de production du médicament.
Mohamed Younous, on voit néanmoins à quel point la course au vaccin devient entre la Chine et les États en particulier un enjeu de prépondérance sur la scène internationale. Comment imaginer qu'il puisse y avoir un consensus quand de tels intérêts géopolitiques sont désormais en jeu ?
Il n'est pas nécessaire de lutter contre ça, c'est du tribalisme, tout ça est complètement bordé. On ne peut pas s'y opposer tout de suite. Mais la formule que j'ai trouvée, que les États-Unis créent une société, une entreprise sociale, qui devrait produire et commercialiser des vaccins pour les États-Unis, et probablement, s'ils le permettent à cette entreprise sociale de produire ailleurs et de vendre aussi ailleurs. C'est comme ils veulent, que la Chine puisse aussi fabriquer ses propres vaccins si elle le souhaite. Mais je dis que cette activité devrait être de l'entreprise sociale. Ce n'est pas destiné à produire des bénéfices personnels pour qui que ce soit.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine O'Krent.
Karine Milsan, bonjour, on ne vous a pas encore entendu. Je rappelle que vous êtes économiste spécialiste des systèmes de santé et vous avez une expérience très particulière du système chinois. Vous avez vécu en Chine. Mercredi dernier, le FBI et l'agence de cybersécurité américaine mettaient en garde contre les tentatives chinoises de pirater les recherches concernant essentiellement le vaccin, mais aussi les différents traitements aux États-Unis. Et on voit aussi à quel point Xi Jinping, qui veut faire de sa lutte contre la pandémie la consécration du modèle chinois, fait de la course au vaccin un enjeu prioritaire.
La course au vaccin est comme devenue un instrument de géopolitique et de montrer sa puissance. Effectivement, et si vous voulez, les États-Unis comme la Chine cherchent à être les premiers à bénéficier ou du moins les premiers à posséder le vaccin puisque c'est vu comme une arme aujourd'hui, une arme sanitaire mais une arme malgré tout, donc une source d'influence inégalable. Il faut aussi voir dans tout ce qui est dit là une opposition entre ce qui a été la ligne choisie par l'OMS et puis la ligne choisie par les États-Unis. L'OMS prône plutôt l'idée d'un vaccin qui soit disponible pour tout le monde et également pour à un prix qui soit accessible pour tous. Derrière tout ça, il y a qu'est-ce qu'un vaccin et qu'est-ce qu'un bien santé.
Justement, qu'est-ce qu'un vaccin et qu'est-ce qu'un bien santé dans la mentalité du régime chinois et aux yeux de Xi Jinping?
Alors, c'est un peu complexe. La santé, vous pouvez la voir comme un bien privé, comme aux États-Unis, où juste vous considérez que c'est un bien comme un autre, comme une paire de baskets, comme l'a dit avant, la personne qui est intervenue tout à l'heure, où vous pouvez considérer que c'est un bien social, donc un bien qui doit appartenir à tous. Le tous, au niveau chinois, peut prendre une autre signification. C'est-à-dire ce que je disais, que c'est une arme. C'est-à-dire que le tous peut être le tous au niveau de la Chine et le tous au niveau des pays, vous voyez, qui s'allient à la Chine et à sa ligne et à sa position. Donc là, ce ne serait plus un vaccin qui serait disponible à tous sans condition, mais un pays qui serait en position dominante et qui utiliserait en fait sa capacité à détenir un vaccin comme une capacité à influer sur les autres pays. Donc on est vraiment là face à différentes positions, chacun voyant effectivement, comme on l'avait dit en introduction, le vaccin comme une arme comme les autres. Et c'est assez impressionnant.
Il y a le vaccin, mais il y a aussi, s'agissant de la Chine, l'extraordinaire levier que ce pays, que ce régime détient en matière de médicaments. 90% de la pénicilline, 80% de la vitamine C, 97% des antibiotiques consommés aux États-Unis sont fabriqués en Chine, non seulement les principes actifs, mais les médicaments eux-mêmes. Donc là aussi, Karine Milson, c'est un atout pour Pékin ?
Oui, ça c'est un atout majeur. La Chine s'est spécialisée dans les ingrédients de principes actifs, c'est-à-dire ce qui va jouer thérapeutique, au niveau de la thérapeutique. Et donc, elle ne, à l'inverse de l'Inde qui sera évoquée tout à l'heure, elle ne se positionne pas sur un produit fini ou plus autant sur un produit fini, mais réellement sur ce qui va rentrer dans le cœur de la composition. Et il ne faut pas s'imaginer qu'elle s'intéresse aux nouveaux produits. En fait, son positionnement est de produire des principes actifs sur lesquels il n'y a plus de brevets depuis plusieurs décennies, sur lesquels il y a un consensus de fabrication et on sait en fait comment préparer ce genre de principes actifs. Donc elle s'est positionnée par rapport à tout ce qui était ce qu'on appelle les médicaments génériques. Ces médicaments pour lesquels on a le principe de base, celui pour lequel il y a eu très longtemps ou plus récemment un brevet et pour lequel aujourd'hui on est capable de le faire et le brevet est tombé et donc on est capable de le copier et capable de vendre un médicament sous ce qui a été fait tomber. Et donc la Chine a vraiment...
Donc d'un côté, il n'y a pas de risque en termes de qualité, alors qu'on peut craindre que cette
Moindre.
Oui, voilà, c'est pas toujours. Voilà, c'est oui, parce qu'il y a eu plusieurs problèmes, notamment avec les livraisons à grand effet d'annonce effectuées par la Chine, notamment en Italie et en Espagne. Mais qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que l'industrie pharmaceutique, qui, d'après ce que je comprends, représente en Chine aussi des alliances désormais entre ce qu'on pourrait appeler le public et ce qu'on pourrait appeler le privé. Qu'est-ce que ça représente en pourcentage du PNB chinois?
Je n'ai pas les chiffres pour vous donner ce que représente.
Grosso modo, ça représente un secteur important.
Ça représente un secteur très important. Ça représente un secteur sur lequel ils ont réussi à être totalement leader. Que même l'Inde dépend de la Chine dans le processus de production. C'est-à-dire que l'Inde, qui est quand même la pharmacie du monde, va produire le produit fini, mais dépend du principe actif, des ingrédients de principe actif qui, eux, vont être produits en Chine.
Karine, pardon, je vous interromps pour précisément demander à Christophe Jaffrelot, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Christophe Jaffrelot, je rappelle que vous êtes directeur de recherche aux séries de Sciences Po et grand spécialiste de l'Inde. Comme vient de le dire Karine Milsan, l'Inde, c'est l'autre pharmacie du monde. Jusqu'à quel point est-ce que l'Inde contrôle l'industrie des génériques, et notamment d'un médicament qui a été ardemment recommandé dès le début de la Covid-19, le paracétamol?
Oui, tout à fait. Donc, l'Inde est, après la Chine, l'autre géant du médicament générique, dont il faut quand même rappeler, surtout après avoir entendu Mohamed Younous, que sa philosophie à ce médicament générique, c'est tout de même de rendre accessible aux pays pauvres et aux pauvres en général une médecine de qualité. Et donc l'Inde, héritier du tiers-mondisme à la Nehru, invoque ce principe moral pour justifier ses investissements dans ce domaine. Investissements qui de fait lui ont permis de se hisser en quelques années dans les tout premiers rangs. On évoque souvent un rang numéro 3 pour ce qui est de la fabrication de médicaments. Et de fait, c'est pour l'économie indienne un secteur très important. Pas autant, bien sûr, que les technologies de l'information, mais on est sur 20 milliards d'exportations, 20 milliards de dollars d'exportations annuelles, alors qu'on était à moins de 5 milliards il y a seulement 20 ans. Donc on a vraiment beaucoup investi et ça rapporte. De fait, ça crée une dépendance aussi, vis-à-vis notamment des États-Unis, puisque 40% des génériques consommés aux États-Unis viennent de l'Inde. Et comme vous venez de le dire, il y a certains médicaments particulièrement utilisés, comme le paracétamol, où l'Inde n'est pas en situation de monopole, bien sûr, mais est en situation de position dominante. Alors ça a été vrai du paracétamol, ça a aussi été vrai, c'est toujours vrai, d'un autre médicament dont on a beaucoup parlé à l'occasion de cette crise du Covid-19, la fameuse HCQ, l'hydroxychloroquine, qui, a-t-on pensé un temps, pouvait aider à lutter contre le virus. En mars dernier, l'Inde a suspendu ses exportations et de paracétamol et de HCQ parce qu'elle craignait d'en manquer pour son propre peuple. Cela a suscité évidemment beaucoup d'émotions.
Et des pressions. Donald Trump a fait pression lui-même auprès du président Modi, M-O-D-I, hein, pas de mauvais jeu de mots, qui exprime au plus haut point le nationalisme hindou dans toutes les manifestations de sa politique. Néanmoins, Christophe Jaffrelot, le paradoxe, c'est que l'Inde est à son tour dépendante de la Chine.
Tout à fait. Et c'est effectivement, je dirais, là où les nationalismes sont en friction, en quelque sorte, puisque l'Inde s'est essayée à une diplomatie du médicament, tentant d'abord de résister à Trump, et puis ensuite exportant du HCQ en grande quantité, notamment à ses amis, notamment Israël. Mais elle a dû reconnaître qu'elle dépendait elle aussi de la Chine. Et non seulement elle dépend de la Chine pour des équipements. En fait, l'Inde a dû accepter de masques et d'autres équipements, pas toujours de grande qualité d'ailleurs, en provenance de la Chine. Mais elle a aussi dû reconnaître que, effectivement, 70% des principes actifs utilisés par son industrie pharmaceutique provenaient de Chine. Et là où on a été particulièrement impressionné par la réactivité indienne, cela a été lorsque le grand Modi, alors qu'il traînait les pieds pour aider les pauvres qui étaient jetés sur les routes par la crise économique, a débloqué 1,3 milliard de dollars pour s'émanciper de cette dépendance vis-à-vis de la Chine. Ce qui est tout à fait significatif, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'Occident, ce n'est pas seulement l'Europe qui se trouve dans cette dépendance chinoise et qui la vit mal, c'est aussi le voisin indien qui, lui, réagit très vite pour essayer de retrouver des marges de manœuvre.
Christophe, restez avec nous quelques minutes encore. Je voudrais vous demander, El-Mouhoub Mouhoud, comment expliquer cette dépendance des pays les plus riches, donc pour simplifier les pays occidentaux, dont la France, vis-à-vis de l'Inde et de la Chine, s'agissant de l'industrie du médicament. Expliquez-nous les différentes logiques qui, depuis les années 90, je crois, ont accéléré cette dispersion ou la délocalisation de cette industrie devenue stratégique.
Oui, alors, je crois que pour comprendre ça, il faut revenir au principe qui guide la fragmentation des chaînes de valeur dans les différents secteurs d'activité, d'une part, et la nature de la concurrence. En fait, dans ce type de secteur, comme en fait compte la pharmacie, ou bien encore les logiciels, l'informatique, ces secteurs oligopolistiques où il y a peu d'acteurs, les groupes ont obtenu finalement quelque chose d'absolument remarquable qui a été passé peut-être inaperçu. C'est en 1995 la mise en place des droits de propriété intellectuelle liés au commerce, les ADPIC, les accords au sein de l'OMC, qui protègent les brevets. Et qui augmentent aussi la durée du brevet de 10 à 20 ans. En plus, s'ajoute dans l'industrie pharmaceutique 50 certifications pour faciliter les investissements en recherche et développement, course à l'innovation, mode de concurrence dominant. Et de l'autre côté, vous avez le marketing qui constitue vraiment le bloc de compétences centrales. Ensuite, vous avez une chaîne de valeur qui est morcelée, comme dans l'industrie de l'automobile, comme dans l'industrie de la chaussure de sport, encore une fois. Et finalement, une fois qu'on a innové sur le principe actif, d'ailleurs les groupes chassent les molécules les moins rentables en amont du processus d'innovation, une fois que le processus est mis sur le marché, qu'est-ce qu'on fait ? On met en place une division taylorienne du travail, très classique, pour maximiser les rendements pour chaque opération des processus de production. Pourtant, on a affaire à une industrie pharmaceutique qui est une industrie automatisable. Je veux dire, le fait d'assembler les principes actifs pour en faire des médicaments de type Doliprane, ça ne représente pas un coût salarial énorme. Par contre, dans la mesure où on a besoin de sécurisation, parce qu'il s'agit quand même d'une industrie pharmaceutique qui touche la santé publique, là, on va se retrouver dépendant de peu d'acteurs. Pourquoi dépendance de peu d'acteurs ? Pourquoi on va se retrouver dépendant de l'Inde et de la Chine ? Eh bien parce qu'il faut à la fois du travail très qualifié et très peu rémunéré pour augmenter les gains sur chaque segment des processus de production, afin de faire quoi ? De financer ces budgets de recherche et développement qui sont quand même colossaux, effectivement, c'est 16 à 17% des chiffres d'affaires hein, de l'industrie, et pour financer des activités de marketing qui sont extrêmement élevées également, et puis pour rendre aux actionnaires leur dû, puisqu'ils ont pris des risques majeurs dans le financement avec une incertitude radicale sur l'arrivée des produits nouveaux, médicaments nouveaux sur le marché. Et donc pour faire cela, on combine deux logiques très différentes de division du travail qui se complètent. Une logique cognitive fondée sur l'excellence du choix des partenaires, hein, d'où la localisation d'ailleurs des sites de R&D dans les meilleurs endroits, dans les grandes agglomérations mondiales, et puis une division taylorienne du travail extrêmement classique du Charlie Chaplin à l'intérieur de l'industrie pharmaceutique d'une certaine manière, mais à l'échelle mondiale, pour favoriser justement ces possibilités d'affronter ces budgets de R&D assez colossaux et de rémunérer les actionnaires. Donc je pense que c'est comme ça qu'on peut expliquer cela. Alors ça pose un petit problème de paradoxe pour l'industrie pharmaceutique, et ça, sa spécificité. Sa spécificité, c'est que sa demande est socialisée. On parlait tout à l'heure du groupe Sanofi, une grosse partie de son chiffre d'affaires en France est socialisée par la sécurité sociale. Donc en fait, ils ont...
Avec des prix plutôt bas d'ailleurs.
Avec des prix plutôt bas sur certains produits, mais plutôt élevés sur d'autres, avec aussi un jeu stratégique pour faire venir l'agence qui régule les prix en France, pour faire venir les médicaments sur des produits de maladies rares, par exemple, pour augmenter les profits. Et puis, il y a quand même des brevets qui permettent de protéger ces prix de monopole sur une longue période. Donc, on a affaire à une industrie qui a trouvé ses institutions pour lui permettre d'opérer finalement de manière efficace. efficace, et ça, on peut pas lui reprocher. C'est pour ça que je trouve un peu, si vous voulez, un peu dupe et un peu naïf le débat sur est-ce qu'il faut décréter la relocalisation. Si on ne change pas les règles du jeu, la relocalisation n'aura pas lieu. Ce qui va se passer, c'est que les entreprises comme Sanofi ou autres vont diversifier leurs fournisseurs, augmenter le nombre de fournisseurs pour sortir de la dépendance vis-à-vis de l'Inde et de la Chine, mais ne vont pas nécessairement reconstituer une industrie mondiale tant que l'équation n'est pas résolue, c'est-à-dire comment faire face à ces budgets de recherche et développement qui sont effectivement extrêmement élevés, mais aussi à ces stratégies actionnariales qui exigent des rendements à court terme. Si vous regardez l'usine de masques Boton qui a été délocalisée par la suite, elle l'a pas été parce que l'entreprise en elle-même n'était pas rentable stricto sensu, elle l'a été parce que finalement dans le jeu stratégique du groupe, Honeywell qui avait racheté cette entreprise, le fait que la demande publique est baissée rendait cette unité moins rentable, et donc ça a été délocalisé pour améliorer les résultats financiers du groupe.
Et vous parliez, Mouroud Mouroub, du changement des règles du jeu. Mohamed Younous fait évidemment partie de ceux qui en appellent à ce qui apparaît à beaucoup comme une utopie, mais qui fait aussi rêver un certain nombre de gens. Jusqu'à quel point est-ce que cette pandémie permettrait un recommencement, Mohamed Younous?
La pandémie nous a offert une occasion extraordinaire en créant une situation où tout l'ancien système s'est effondré. Et lorsque la pandémie sera terminée, le système sera totalement lessivé, il aura disparu. Et cette question qui se pose, c'est comment faire repartir le moteur pour pouvoir refonctionner à nouveau. Mais la question que je soulève, moi, c'est est-ce qu'il faut faire repartir ce moteur? Notre expérience avec ce moteur n'a pas été bonne. Et juste avant que cette pandémie ne se déclenche, nous crions à travers le monde entier que ce monde devenait invivable, qu'on en arrivait à un point de désastre catastrophique où on allait se détruire en moins de 3 ou 4 décennies. On se posait la question, est-ce que les jeunes pouvaient avoir une vie? Est-ce que leurs enfants ou leurs petits-enfants pourraient avoir une vie? C'est la fin d'un processus. Le coronavirus, heureusement, a arrêté ce processus. C'est un effondrement. Pour faire repartir le moteur, est-ce qu'on veut revenir au point où on était lorsque la pandémie est arrivée? Ma réponse est non. Merci, non, nous ne voulons pas revenir à ce monde-là. Si c'est clair que revenir à ce monde-là n'est pas une option, si cela nous est clair, à ce moment-là, nous pouvons le reconcevoir de telle sorte qu'on n'aura pas à faire face aux problèmes auxquels on faisait face précédemment. Et on en arrive à cette question que vous avez posée, le médicament. Le coronavirus nous a révélé, parmi beaucoup d'autres choses, à quel point notre système de santé était fragile, à quel point notre système de santé publique à travers le monde était fragile. La médecine, les sociétés pharmaceutiques, à quel point tous ces systèmes, tous ces mécanismes étaient absurdes. On a une chance de pouvoir reconcevoir tout cela à nouveau. Le médicament, par exemple, compte pour moitié des coûts des systèmes de santé. Ces médicaments sont produits par très peu d'entreprises qui sont en situation de monopole mondial. Ce sont des sociétés à but lucratif. Elles spéculent sur les marchés boursiers. Et tant que le médicament sera produit à but lucratif, aussi longtemps que ce sera lié à un système de spéculation, alors ça veut dire qu'on est dans un mauvais système. Au nom du médicament, on embrouille les gens, on les trompe et on en fait de l'argent. Ce n'est pas le genre de monde vers lequel je veux revenir.
Nathalie Cottinet, on comprend évidemment que ces aspirations s'expriment un peu partout dans le monde, mais si on revient au monde réel, et on a vu que la financiarisation est une dimension essentielle, importante de l'industrie des médicaments. Jusqu'à quel point est-ce que l'idée de relocaliser dans nos pays, où les coûts du travail sont infiniment plus élevés qu'en Asie. Jusqu'à quel point est-ce que ces relocalisations sont concevables ?
Effectivement, je crois que l'épisode de cette pandémie a montré que l'industrie pharmaceutique dans les pays développés marchait un petit peu sur la tête par moment. Est-ce qu'on peut s'interroger sur le fait que le médicament, qui est un produit essentiel, soit confié à des firmes qui sont hautement financiarisées et sans doute parmi les secteurs les plus financiarisés. Alors là, il y a un paradoxe évident. Alors pour répondre à votre question, la relocalisation, elle n'est pas aussi évidente qu'on pourrait l'imaginer parce que malheureusement, nos pays, et la France en particulier, a perdu des compétences avec ces délocalisations. Néanmoins, je pense que elle peut se faire et que il a été rappelé à plusieurs reprises que l'industrie pharmaceutique elle est rendue solvable, notamment en Europe et en particulier en France, par les systèmes de sécurité sociale, par les systèmes de remboursement, et que là, les États ont quand même une arme, si je puis dire, puisqu'on parle de guerre du médicament, en tout cas un outil, un levier pour exiger des firmes pharmaceutiques que une partie, en tout cas, de la production soit relocalisée, ce qui permettrait d'assurer des approvisionnements et puis de lutter contre les pénuries qu'on a vues depuis 10 ans se multiplier de manière extrêmement importante et qui sont en grande partie liées à la fragmentation des chaînes de valeur qui était expliquée précédemment par El Mahmoud. Donc il y a, je pense, une nécessité de relocaliser, notamment pour sécuriser les approvisionnements et pour éviter de se retrouver dans des situations qui semblent apocalyptiques, de guerre de pays, pour obtenir des médicaments, des masques ou que sais-je encore. Et l'histoire de Sanofi le montre. Si je peux revenir juste une petite seconde sur l'histoire de Sanofi, il faut bien voir qu'une grosse partie des capacités de production de vaccins, dans le vaccin en particulier, sont en Europe. Le marché du vaccin est beaucoup plus concentré que le marché du médicament. Et il y a 4 gros acteurs, 2 Européens et 2 Américains, et une grosse partie des capacités de production sont en Europe. Et donc, un des éléments de la bataille, c'est aussi de s'assurer des capacités de production. Parce que quand un vaccin est découvert, il faudra le produire, comme il a été dit, pour 8 milliards d'individus. Et donc les capacités de production immédiates ne sont évidemment pas disponibles, même si on imagine que certaines populations seront vaccinées en premier, les soignants, les populations les plus à risque. Donc il y a aussi la question de la capacité de production qui est, à mon avis, un des éléments de
Nathalie Cottinet, on voit aussi, et on en revient toujours à cette difficulté au niveau européen d'agir ensemble. On sait qu'il y a une agence européenne du médicament avec un guichet unique d'autorisation de mise sur le marché. On voit aussi les déceptions autour du programme Discovery, qui est censé tester donc 4 traitements anti-Covid-19 au niveau européen, 3200 personnes testées, et on voit que ça cafouille parce que il n'y a pas suffisamment de coordination, les priorités d'un pays à l'autre ne sont pas les mêmes.
Oui, effectivement, sur les 3200 patients, il y en a 750 en fait dans les tests et qui sont essentiellement français. Il y a un luxembourgeois. Effectivement, il y a eu des difficultés de mise en œuvre parce que il y a aussi une urgence sociale face aux médicaments, aux vaccins contre le coronavirus qu'on comprend très bien, mais qui n'est pas compatible avec le temps de l'industrie et de la recherche pharmaceutique, qui nécessite non seulement de faire de la recherche poussée, mais aussi de faire des tests, et des tests qui sont essentiels pour la sécurité du produit. L'OMS rappelle d'ailleurs que le médicament est un produit dangereux qui nécessite un certain nombre de tests. Et donc, il y a aussi dans l'échec de Discovery, qui n'est pas complètement un échec, c'est juste de dire il faut du temps. Et il faut du temps pour faire des tests sur les médicaments, il faut du temps pour vérifier qu'ils sont non toxiques, mais ce temps, il n'est pas compatible ou il est difficilement compatible quand on a une urgence sanitaire telle que la crise que nous vivons actuellement.
Et il y a un autre exemple qui est tout à fait édifiant, me semble-t-il, qui est celui d'un médicament qui s'appelle le Remdesivir, fabriqué par un laboratoire américain, Gilead. Depuis que Anthony Fauci, qui est donc le grand stratège de la lutte anti-Covid-19 et parfois de la lutte anti-Donald Trump aux États-Unis a recommandé ce médicament en disant qu'il offrait des promesses dans le traitement. On a vu bien évidemment les cours de bourse flamber, mais on a vu aussi que ce même laboratoire se rendait compte qu'il avait besoin de principes actifs qui venaient, encore une fois, d'Inde. Donc là, comme vous le dites, Nathalie, il y a ce problème de l'urgence et en même temps le calendrier qu'il ne faut pas bousculer de la mise au point, de la vérification et des tests.
Oui, je crois que l'exemple aussi de l'hydroxychloroquine, alors n'étant pas médecin, je ne me prononcerai pas, mais il me semble, les premiers tests montrent qu'elle n'est pas aussi efficace qu'on aurait pu l'espérer ou le souhaiter, et que malgré tout, en amont, il y a eu déjà des jeux stratégiques très importants pour s'approprier les stocks qui existaient d'hydroxychloroquine avant même de savoir si c'était un médicament qui se révélait efficace. Et ce que montre sans doute aussi l'essai Discovery, même s'il y a peu de patients, et je pense que c'est là où il y a pour le moment en tout cas un échec, c'est que aucun médicament testé ne semble être la révolution pour soigner le coronavirus. Et du coup, c'est des médicaments qui, pour le moment, a priori, encore une fois, je prends des réserves parce que je suis pas du tout médecin, mais ne semblent pas donner les résultats qu'on pourrait espérer face à cette maladie.
Retournons en Inde avec vous, Christophe Jaffrelot. On a vu dans différents compartiments du jeu, si j'ose dire, à quel point cette pandémie accélère ou renforce des tendances lourdes. Vous faisiez allusion tout à l'heure au nationalisme hindou, incarné bien évidemment par le président Modi. Jusqu'à quel point va-t-il utiliser la méfiance qui grandit en Asie d'abord, mais dans le monde entier vis-à-vis de la Chine, pour essayer de relocaliser en Inde une partie de l'industrie pharmaceutique chinoise ?
Il essaye effectivement d'attirer ceux qui voudraient quitter la Chine pour produire en Inde, alors produire des médicaments, mais pas seulement, pour produire tout court, dès lors que c'est du manufacturé. On vient, par exemple, de libérer des terrains, parce que l'accès à la terre est un des problèmes pour les investisseurs industriels en Inde, de manière à ce qu'il n'y ait pas justement de difficultés de ce point de vue-là. Tout un territoire grand, dit-on, comme le Luxembourg, est maintenant disponible pour attirer ces investisseurs. La difficulté n'est pas seulement celle de l'accès au terrain, c'est quand même aussi pour l'Inde le problème de la main-d'œuvre. On a une main-d'œuvre certes bon marché, mais très peu qualifiée. L'Inde paye sur ce terrain l'absence d'investissement dans l'éducation qu'elle n'a jamais vraiment promue. Et ce n'est pas si facile de transformer des masses paysannes en ouvriers d'usine. C'est pas aussi simple que ce que le gouvernement voudrait bien nous faire croire. Et dès lors que on quitte l'élite, en tout cas la classe moyenne, celle qui fait le succès du IT indien, celle qui fait le succès de la pharmacie indienne. Ce sont des gens qualifiés pour le coup. Eh bien, on manque d'effectifs. Donc, il y a un problème de main-d'œuvre. Et puis, il y a un autre problème qui est toujours récurrent, la bureaucratie, la corruption qui va avec, la longueur des procédures. L'Inde, de ce point de vue-là, n'a pas, comme la Chine, mis en place des zones économiques spéciales où les processus sont accélérés. Donc elle va essayer, bien sûr, l'Inde, d'attirer ses investisseurs, mais elle voit d'autres concurrents, y compris en Asie du Sud-Est, le Vietnam par exemple, la Malaisie, qui lui taillent des croupières dans certains domaines. Et dans le domaine de la pharmacie, elle a un avantage plus grand, elle a une compétence plus grande, mais elle va devoir batailler sans doute pour récupérer des investisseurs en quelque sorte déçus ou inquiets de l'évolution chinoise. Reste un autre point qui me paraît très important. Dans quelle mesure l'Inde peut-elle prendre le risque de s'aliéner la Chine ? La dépendance de l'Inde vis-à-vis de la Chine, ce n'est pas seulement les principes actifs du médicament, c'est aussi des investissements de plus en plus structurels, importants dans les infrastructures notamment. Il faut savoir que, par exemple, la téléphonie mobile est maintenant à 50% équipée par des entreprises chinoises. L'Inde craint la Chine et n'est plus guère en mesure de lui échapper, en tout cas dans certains domaines, notamment les infrastructures, où les investisseurs venus d'autres pays sont très timides. Et donc, l'idée qu'on va, en quelque sorte, récupérer, attirer ceux que les Chinois ne peuvent plus garder, se heurte aussi à cette limite.
Merci Christophe Jaffrelot. Karine Milsan, voilà qui nous ramène tout naturellement à la Chine et aux atouts considérables dont Xi Jinping veut jouer pour prouver au monde la suprématie du modèle chinois, la supériorité du modèle chinois. Jusqu'à quel point est-ce que la pandémie sert son jeu et devient une croisade patriotique chinoise à l'échelle de la planète?
L'important pour la Chine, je pense, ça va être de veiller à ce qu'il n'y ait pas de nouveaux foyers. Donc, le traçage qui est opéré est vraiment dans cet objectif, voire d'autres objectifs, dans cet objectif premier de s'assurer que la Chine est bien un exemple où l'épidémie a pu être arrêtée, sa progression arrêtée, puis ensuite stoppée dans sa progression et dans un nouveau nombre de cas infectés, le nombre de personnes infectées. Donc ça, c'est un élément très important qui va jouer. Et à partir de là, la Chine peut se présenter comme un exemple ou de moins une perspective de solution à suivre. Reste que la Chine est quand même un pays avec un régime autoritaire, donc ça implique un certain nombre d'éléments et également des éléments qui ont écho dans la réponse qui a été trouvée pour répondre à cette épidémie.
C'est-à-dire
la manière de durant l'épidémie, la manière très agressive en fait d'avoir confiné les individus. On a braqué les projecteurs sur la province du Hubei, mais c'est sur l'ensemble du territoire chinois en fait que les personnes se sont trouvées confinées. Et donc dans la province de Hubei, ils se sont trouvés particulièrement fortement confinés, avec tout ce qui pouvait aller à tout ce qui pouvait être lié. La Chine a été dit tout à l'heure en parlant de l'Inde, en image à l'Inde, mais c'est un pays où vous avez effectivement une main-d'œuvre qualifiée, mais aussi une grande part de main-d'œuvre non qualifiée, avec une espèce de dumping social. Et donc, un certain nombre de la population qui n'ont pas du tout été, n'avaient aucune structure de protection, socialement parlant, et pour qui ce confinement a signifié une fragilité socio-économique très très forte. Donc,
mais on voit à quel point, Karine Milsan, le régime, en utilisant tous les moyens combinés de la censure et de la propagande, s'efforce chaque jour d'expliquer aux Chinois à quel point leur propre patriotisme est en jeu face à la pandémie et jusqu'à quel point il est important que la communauté chinoise démontre au monde entier sa force et sa supériorité, en quelque sorte.
Vous avez dit le mot juste dans le mot communication. Il faut expliquer, il faut justifier le sacrifice qui a été fait à travers ce confinement. Et donc, du coup, il faut éviter que la population se penche sur les raisons, la politique qui a pu être mise en place. Il faut plutôt que la population se glorifie des succès apparents, enfin les succès réels et les succès sur lesquels la communication insiste en particulier. Et puis, il y a tout aussi une dialectique pour que la Chine serve d'exemple et que chaque citoyen chinois ait l'impression de représenter, d'être fier de son pays, de représenter une sorte d'exemple pour le reste du monde. Donc effectivement, toute cette politique sur les vaccins, toute cette politique sur les médicaments et être un endroit où c'est produit, sert en fait une diplomatie sanitaire qui aujourd'hui permet à la Chine de rebondir sur ce qui avait été sa faiblesse durant il y a quelques mois. C'est oui.
El Mouhoud, on arrive pratiquement à la conclusion de cette émission. Et donc, on voit à quel point la coopération internationale est vitale face à cette pandémie qui frappe la planète entière. On voit en même temps à quel point la Chine en est véritablement l'exemple paroxystique. On voit à quel point le nationalisme, la souveraineté deviennent des enjeux majeurs. Et on l'éprouve nous-mêmes au niveau de l'Europe et au niveau français, où on retrouve un vocabulaire, s'agissant en particulier des médicaments et du vaccin, un vocabulaire qui était négligé concernant ces secteurs. Jusqu'à quel point est-ce que, véritablement, c'est, selon vous, un tournant dans la manière dont nos politiques seront conduites désormais ?
Écoutez, j'espère que ce sera un tournant, mais j'ai des doutes, parce que je trouve, si vous voulez, que les annonces qui sont faites sont souvent incantatoires, et à côté du cadre législatif qui autorise ces phénomènes de délocalisation dans des industries, à un pacte collectif majeur comme la pharmacie. En fait, si la pharmacie et les médicaments sont régulés par les agences nationales en France du point de vue de l'efficacité, mais des principes actifs, etc., il n'y a pas de régulation des conditions de production. C'est même pire, puisque on n'a pas le droit d'imposer la traçabilité des chaînes de valeur aux entreprises. Donc en fait, il y a un cadre ici qui est un cadre législatif du code de l'union douanière européenne qui n'autorise pas une possibilité de tracer et d'imposer aux firmes la souveraineté, justement, qui était une souveraineté mythique. Et puis les opérations de financement de la recherche et développement dont on a parlé tout à l'heure, le crédit d'impôt recherche, ne sont malheureusement pas ciblés sur les industries stratégiques. On ne les cible pas pour laisser faire les entreprises, mais aussi parce qu'on ne peut pas discriminer entre les secteurs. Mais il faudrait prendre aussi conscience que tous les mécanismes de financement public doivent être mobilisés au profit des industries que l'on considère stratégiques. Or, pour l'instant, on a dit qu'il y avait des industries stratégiques. On a comparé les médicaments, les tests, les vaccins à l'armement, à l'aéronautique. Mais je crains bien fortement que le contexte que si le contexte législatif et si le contexte de l'environnement de l'écosystème est le même après le choc, que ça reparte de plus belle. La seule chose que feront les groupes, parce qu'ils ont été victimes, c'est de diversifier davantage leurs fournisseurs. Voilà. Et donc je suis un peu dubitatif.
Eh bien, nous allons rester sur ce doute. Merci à vous, El Mouhoud, professeur d'économie à Paris Dauphine. Je rappelle que vous avez publié aux édition La Découverte, mondialisation et délocalisation des entreprises, véritablement un ouvrage dont la relecture ou la lecture s'impose. Merci à vous, Karine Milsan, chercheuse au CNRS. Vous avez écrit un ouvrage en anglais sur la réforme de la santé en Chine, publié chez Palgrave Macmillan en 2018. Nathalie Coutinet, vous avez publié Économie du médicament aux éditions La Découverte en 2018. Christophe Jaffrelot, je recommande fortement votre ouvrage sur l'Inde de Modi, National Populisme et Démocratie Ethnique chez Fayard l'an dernier. Je remercie bien sûr Mohamed Younous de nous avoir accordé cet entretien qui a été merveilleusement traduit bien sûr par Michel Zlotowski. À la réalisation ce matin, Laurent Pouleret, avec Alexandre Dang et Nasser Moussaoui à la technique. Hugo Boursier m'a aidé à préparer cette émission. Je remercie bien sûr le centre technique de Radio France de nous avoir permis d'enregistrer cette émission dans des conditions qui restent particulières. Et dans un instant, restez sur France Culture, puisque vous avez rendez-vous avec Hervé Gardette. Très bon week-end, à samedi prochain.